Voix Nue. Cette semaine, Ilana Navarro rencontre Alice Cherki. Ce soir, Fanon et l'utopie. Bonsoir Alice Cherki.
Bonsoir.
Hier, nous avons évoqué votre éveil politique. Vous nous avez raconté votre enfance au sein d'une famille juive, au cœur de l'Algérie coloniale. Et un peu plus tard, vos études en médecine et votre décision de vous engager pour l'indépendance de l'Algérie. C'est pendant ces études que vous avez rencontré le psychiatre Frantz Fanon, qui était nommé pour diriger un des services de l'hôpital psychiatrique de Blida. Frantz Fanon, psychiatre et écrivain, penseur politiquement engagé, considéré comme inspirateur du tiers-mondisme et des études postcoloniales. Vous avez d'ailleurs publié son portrait aux éditions du Seuil en l'an 2000. Est-ce que vous vous souvenez de la toute première fois où vous l'avez rencontré?
Oui, bien sûr, je me souviens, c'était en janvier 55. Vous me permettrez quand même de revenir un petit peu sur la présentation que vous faites de Frantz Fanon, qui était un psychiatre qui avait déjà écrit Peau noire et masque blanc, c'est-à-dire un livre sur les rapports psychopathologiques du noir avec le blanc, qui était un livre extrêmement important, dont nous n'avions pas connaissance, on n'en parlait pas du tout, et qui, d'une certaine façon, peut être décrit plus que comme penseur, anticipateur du tiers-mondisme, comme très engagé. Après, on le verra dans la révolution algérienne, ou la lutte de libération algérienne, comme vous voulez, et surtout, qui a été absolument prémonitoire sur les non-dits et les silences qui allaient succéder à la colonisation. C'était beaucoup plus important ça pour lui que de penser qu'il était inspirateur du tiers-mondisme, qui est arrivé d'ailleurs, il était déjà malheureusement décédé quand ce mouvement s'est développé. Bon, mais ça c'est pour... Alors, pour en revenir à la petite histoire, j'ai effectivement rencontré Fanon en janvier 1955 à une conférence de l'AJAS, c'est-à-dire l'Association de la jeunesse algérienne pour l'action sociale. Vous voyez, c'était un titre très pompeux, mais dans lequel nous étions quelques-uns. Il y avait assez mélangé pour l'époque. Il y avait des jeunes musulmans issus des mouvements de jeunesse et du scoutisme. Il y avait des jeunes chrétiens progressistes. Et puis quelques juifs, sans représentation particulière, dont beaucoup étaient d'ailleurs assez marginaux, parce qu'il y avait beaucoup de jeunes juifs au Parti communiste, eux-mêmes marginalisés au sein du Parti communiste. Fanon était venu au moment d'une conférence qu'elle avait faite sur la peur et l'angoisse. Voilà. Et il avait beaucoup intéressé, enfin quelques-uns d'entre nous en tous les cas, parce que nous étions coincés à l'époque, tous ces jeunes, entre l'idéologie qui consistait à dire le colonialisme disparaîtra avec la lutte des peuples, ou l'existentialisme. C'est-à-dire que la place de la position active d'un engagement dans une lutte d'indépendance, avec tout ce que ça avait comporté à la fois de subjectif et de social, lui nous ouvrait cet horizon. Vous comprenez, il ouvrait cet horizon de que c'était pas du ou bien, c'était le même mouvement. Voilà, c'est comme ça que j'ai rencontré. Et après, ce que j'ai dû vous raconter déjà l'autre fois, quand je vous ai dit, bon, d'une part que j'étais partie de chez moi, qu'en plus j'étais très très ennuyée à l'hôpital, que il y avait une grosse tension, qu'on était un peu dans la clandestinité, enfin, je sais pas, un début de clandestinité, si vous voulez, à Alger. En plus, moi, je voulais faire de la psychiatrie. J'avais compris que c'était ça qui m'intéressait. C'était pas question une seconde que je fasse de la psychiatrie à Alger avec un professeur qui était même pas psychiatre, qui était plutôt de l'idéologie souterrienne de Souter et de Porro, dans lequel les indigènes n'avaient pas le cortex fabriqué comme les Européens. C'était pas du tout comme c'est ma conception de la psychiatrie, et Fanon a proposé que je vienne comme interne à l'hôpital de Blida. À Blida-Joinville, ça s'appelait.
Alors, vous pouvez nous raconter un peu ce lieu. Comment c'était cet hôpital? Il y avait beaucoup, il y avait des plus de 1000 lits à l'époque où c'était.
Ah oui,
c'était. Il y avait la ségrégation. Comment c'était?
C'était d'abord un asile, à l'instar de tous les années de l'asile de l'époque. Vous savez que c'était quand même dans les années 55-56, où il y avait une très très jolie partition d'ailleurs qui recouvrait la partition. Coloniale, il y avait les pavillons d'Européens hommes, les pavillons d'Européens femmes, les pavillons d'indigènes musulmans hommes et d'indigènes musulmanes femmes. C'était comme ça que c'était réparti. Il y avait plusieurs chefs de service. Enfin, on n'était qu'un des chefs de service. Je le précise parce qu'on a dit souvent qu'il était le chef de l'hôpital psychiatrique d'Oblida. Pas du tout. Il avait un pavillon de femmes européennes, un pavillon d'hommes musulmans. Il voulait mettre en place ce qu'on appelait la social thérapie, qu'il avait appris, qui lui convenait parfaitement. Ça faisait partie vraiment de son orientation personnelle psychique, si j'ose dire, et de sa conception de ce métier, qu'il avait appris à Saint-Alban chez Tosquelles. Voilà. Qui était lui-même un émigrant espagnol. Qu'avait créé Saint-Alban avec la social thérapie, c'est-à-dire qu'il faut que l'institution, je le dis très rapidement parce que sinon il faut rentrer dans lequel il s'agit, que l'institution elle-même soit soignante et que participent les pensionnaires, puisque du coup on n'appuie plus les malades mentaux des malades, des pensionnaires à différentes activités thérapeutiques qui leur permettent de retrouver le fil de leur histoire et de leur traumatisme et de leur délire même, parce que les délires parfois peuvent être eux-mêmes nous constructifs et nourrir, etc. C'est une petite révolution psychiatrique, déjà. Et aux grandes dames des autres plus, disons, conservateurs et qui étaient encore... quand moi je suis arrivée à l'hôpital, il y avait encore... des camisoles de force, l'uniforme, n'en parlons pas. Et quand on avait le malheur d'être tuberculeux et schizophrène, on était dans des caves, avec des sous-sols, avec de la paillasse, et on vous jetait la nourriture par une lucarne. Alors, moi, j'ai assisté à ça. Donc, Fanon révolutionne tout ça dans ses services. Chez les Européennes, ça marche très très bien parce qu'il crée un journal, du théâtre, des ateliers de couture. Très important les ateliers de couture parce que, si vous voulez, les femmes viennent, essayent les tissus, elles prennent conscience les unes réciproquement de leur corps. Et sur leur corps, on peut raconter une histoire. Faut pas oublier en plus que tous ces gens qui étaient enfermés dans cet hôpital, c'était les gens qui n'avaient pas les moyens, d'abord chroniques, entrer dans la chronicité, et surtout, qui n'avaient pas les moyens de se payer les cliniques privées. Donc, chez les femmes, au théâtre, ça marche très très bien. Chez les hommes, c'est beaucoup plus compliqué. Parce que, d'une part, à l'époque, les infirmiers psychiatriques s'étaient considérés comme, pas simplement en Algérie, hein, mais partout en France, sauf à Saint-Alban, c'était considéré comme des gardiens. Et puis, par exemple, ils découvrent que la petite mosquée, qui existe encore, je l'ai vue récemment, c'est une ravissante petite mosquée qui n'a rien à voir avec les grands monuments que les chefs d'État se font construire actuellement, et qui avait été transformée en grenier à foin. Voilà. Plein de choses comme ça. Donc, faire réouvrir la mosquée. Mais ça marche pas très bien. Les réunions qu'il fait avec les malades, ça marche pas, etc. Le théâtre, ça marche pas. La poterie, ça marche pas. Finalement, bon, et entre-temps, Fanon avait été... il avait été un peu partout, il avait été en Kabylie, voir comment se passait la culture, il avait visité les marabouts, enfin, parce qu'il ne connaissait pas tout ça, hein, quand il est arrivé en Algérie, ça, non, il ne connaissait pas. Et progressivement, il met en place des infrastructures, comme on dit de nos jours, pour que c'est qu'il y ait justement une coïncidence, une façon de d'être en adéquation avec ceux que ces hommes musulmans, la plupart d'ailleurs venant de Kabylie, puissent se repérer, que ça fasse sens pour eux. Et alors, c'est comme ça qu'il crée un café mort, où les hommes, il y a encore les vestiges, il n'y a plus le café, mais il y a toute la petite placette, donc, où les hommes se réunissent pour boire un café, etc., pour discuter, etc. Et la musique Chaabi. Je vais venir un grand musicien Chaabi, Abderrahman Aziz, qui est un type, moi que j'ai connu, vraiment un type magnifique, hein, vraiment. Magnifique, comme on dit, parce que c'est un mot comme ça, magnifique, un mot qui circulait beaucoup à l'époque. Et il devient même un infirmier, hein, Abderrahman Aziz. Il fait un travail. Alors, la musique Chaabi, etc., ça retrouve. Ça n'empêchait pas, si vous voulez, tous les autres traitements. Il n'y avait pas de neuroleptique à l'époque, mais il y avait. Par exemple, la façon dont Fanon avait de pratiquer les électrochocs, c'était, on est au lit du malade, au réveil, on parle. C'est-à-dire qu'il y a une psychothérapie qui s'engage au réveil des électrochocs. Il y a une parole qui s'instaure et ça, c'est effectivement, parce que, une chose qu'il faut dire, c'est que quand au début ça échoue avec le personnel et même les infirmiers qui après vont être dans la dévotion par rapport à Fanon, qui finalement les considère comme des soignants, pas comme des gardiens, pour eux c'est une révélation, fait une école d'infirmiers, etc. Ça marche pas, comme ça marche pas, tous les autres, je veux pas dire les noms maintenant, c'est pas important, ricanent en disant, on lui avait bien dit à celui-là, ce nègre qui débarque, etc., il connaît pas les Arabes, avec eux on peut rien faire, etc. Voilà. Il n'y a plus de camisole de force. Il montre que l'agitation n'est pas due au hasard dans un service de psychiatrie. Dans le même temps, il crée une école d'infirmiers, il s'occupe de la bibliothèque, les internes se réunissent le soir pour étudier. Et dans le même temps, il y a la guerre.
On est en pleine année 1956, je crois.
On est en 56, avec toute la répression.
Alors ça marque l'extension du conflit armé et politique qui envahit toute l'Algérie. Oui. C'est aussi une répression aveugle, l'ouverture du champ illimité de torture. Blida accueillait aussi des tortionnaires.
Oui, je n'ai pas assisté aux entretiens que Fanon faisait avec l'entretien qu'il a fait avec un gendarme qui avait changé complètement le comportement chez lui. Parce qu'il avait été dans les chambres de torture, acteur des chambres de torture, et qu'il avait complètement changé de caractère, qu'il battait sa femme, ses enfants, etc. Et qu'en plus, qu'il voulait une mutation. Mais il était venu accepter de venir parler avec le psy, parce qu'il espérait qu'au bout du compte, il aurait une mutation. Ça, ça fait partie de petits détails, voilà. Progressivement, on recevait des gens de la UIA4, soit parce qu'ils étaient blessés ou déprimés au départ, clandestinement. Nous, c'était avec la UIA4. Quand je dis nous, les gens, Fanon était engagé dans la UIA4. Les UIA étaient des zones dans lesquelles il y avait les maquisards, etc. Ça s'appelait les UIA. On peut traduire par département. Donc, il y a eu, par capillarité, un engagement. Surtout après le fait qu'on s'est rendu compte que la guerre allait s'éterniser, avec d'un côté l'arrestation de l'avion, la suppression des tractations secrètes, et puis la répression à Alger, et dans toute l'Algérie, avec Massu, Lacoste et compagnie. Tous les internes étaient du côté de Fanon, enfin étaient avec Fanon du côté de tous les internes. Que ce soit Sanchez, Géronimi,
qui était
Asla,
votre futur mari, que vous avez rencontré sur place, c'est ça?
Oui, que j'ai rencontré là, que j'ai épousé à ce moment-là.
Voilà. À Blida?
On s'est connu à Blida, on s'est marié à Alger, un mariage très vite fait, hein, c'était un peu, voilà, accepté par ma famille.
Mon Parce père qu'il était européen, n'était pas juif.
Oui, il n'était pas juif. Enfin bon, mais c'était. Mon père a commencé à accepter beaucoup de choses à ce moment-là, je dois dire. comme quoi parfois les bouleversements peuvent faire des changements aussi, individuels et parfois collectifs.
Quelle était votre vie quotidienne? Vous dormiez sur place dans
des
dortoirs d'internes?
Non, mais il y avait un internat dans lequel les internes logeaient. Avec les moyens, on pouvait prendre le train pour aller à Alger. Il y avait une bibliothèque. On travaillait dans les différents services. Le soir, on n'était pas tous. Alors c'est là aussi où il y avait des différences. Par exemple, Fanon, il avait créé une énorme bibliothèque avec beaucoup de livres de psychiatrie, de psychanalyse, etc. Et me souviens un épisode, puisqu'il m'avait demandé de raconter des petits épisodes comme ça, qu'il nous avait demandé de lire et de commenter les 5 psychanalyses de Freud. Voilà. Son chef, ça ne l'intéressait pas du tout. Moi, ça me passionnait. Voilà. Et le soir, à l'internat, il y avait une grande table, comme ça, en bois, genre réfectoire. On se retrouvait là pour commenter nos textes. Et finalement, on fait passer. Voilà. Puis de temps en temps, on s'interrompait au milieu de la nuit parce qu'il y avait quelqu'un, un clandestin, qui avait débarqué. Soit qu'il fallait aller soigner, soit qu'il fallait aller cacher. Donc on arrêtait là. Notre séminaire, voilà, pour s'occuper de ça, voilà, c'est tout. Donc, c'est à ce moment-là que l'hôpital psychiatrique de Blida a été baptisé Nid de Félaga. Félaga, c'était le mot, les Félagas, c'était ce que nous appelons les résistants.
Comment décririez-vous la mentalité de l'école de psychiatrie algéroise de l'époque avant? On n'a pas parlé des termes comme le primitivisme, par exemple, qui est utilisé.
Oui, bon, ça aussi. Eh bien, écoutez, justement, ça, il faudrait reprendre. Il y a eu quand même pas mal de trucs ces dernières années qui ont été dits autour de ça. L'école de Poirot, qui était l'école auquel Sutter a été partisan, pas mal de psychiatres d'Alger étaient partisans. Qui était l'école du primitivisme, c'est-à-dire qui rejoignait le truc à l'époque aussi, ce que Carothers disait en Afrique du Sud, que le cerveau des indigènes n'était pas construit de la même façon que le cerveau des Européens. C'est-à-dire que... Alors les juifs, je ne sais pas dans quelle catégorie on les mettait d'ailleurs. Maintenant, vous me posez la question. Je ne sais pas s'ils étaient... Enfin, comme beaucoup étaient devenus médecins, avocats, etc. à l'époque, peut-être que pour eux...
Mais on vous enseignait ça dans les manuels de psychiatrie?
Ah, dans les manuels. Mais vous savez que le manuel de psychiatrie de Poirot est resté, avant le manuel d'Henri E, est resté en vigueur par les étudiants de psychiatrie jusqu'en... 1970, le manuel de Poirot, la théorie du primitivisme était que les indigènes étaient régis par le sous-cortex, qu'on appelle le diencéphale, et que de ce fait, ils étaient impulsifs, violents, pas capables de mentalisation, donc régis par des instincts, etc., et pas de possibilité de mentalisation, dont beaucoup déduisaient qu'ils étaient inaptes au travail. Voilà. Et en plus, une chose que je vais vous raconter, une des choses qu'on avait faites avec Jérôme, mais on n'a pas pu terminer, c'est nous qui avions eu l'idée, mais c'est Fanon qui nous avait donné l'accord, on avait découvert qu'un texte qui s'appelait le TAT, thèse d'aperception, voilà, qui étaient des planches que l'on montrait aux patients pour raconter une histoire. Voilà. Et c'est des planches, vous aviez. Et on avait constaté que ces planches, c'était soit un violoniste dans un immeuble parisien, une maison avec un escalier en bois, genre maison du XVIIIe siècle, un cimetière avec des croix. Enfin, que des images comme ça, et que allègrement, une femme psychose puerpérale descendant des Aurès ou de Kabylie, quand on lui montrait ces planches-là, ne pouvait rien raconter. C'est évident que... Bon, alors on disait manque d'imagination, déficit imaginaire, enfin, un truc comme ça. Donc on avait dit qu'on allait nous faire un TAT avec des planches plus adaptées à ceux, aux représentations possibles pour ces personnes-là. Voilà. On avait commencé, malheureusement après, on était obligé de tout arrêter.
Pareil, le terme, le syndrome nord-africain, c'était lié à cette idée du primitivisme.
Syndrome nord-africain, non. Syndrome africain, ça peut être lié à ça. Ça, c'est Fanon avait déjà écrit ça bien avant d'arriver à Alger. Il avait publié ça dans la revue Esprit, et c'est un article d'une grande actualité, une très très grande actualité, je ne cesse de le dire, parce que il avait eu, à Lyon, il avait eu une consultation avec les ouvriers immigrés maghrébins, et notamment beaucoup algériens à l'époque. Il y avait beaucoup plus d'Algériens que de Marocains. Après, ça a été différent, puis beaucoup de Marocains étaient partis après en Belgique, mais c'était essentiellement des Algériens qui étaient logés dans les foyers absolument sans droit, sans famille, sans avenir, sans passé, etc., et qui présentaient des syndromes que les médecins en Algérie avaient appelé la coolshit, c'est-à-dire un mal partout. Voilà. Et donc ils arrivaient avec des symptômes somatiques, surprenants, et y compris les psychiatres européens ne comprenaient pas, trouvaient que bon, c'était qu'ils avaient rien, quoi, voilà, pour aller vite, qu'ils avaient rien, que c'était pas
qu'ils inventaient peut-être.
Oui, qu'ils inventaient, que c'était le mot imposteur n'était pas utilisé, mais c'était dans la Donc, c'était des tirs au flanc. Et Fanon a montré de façon très pertinente, et c'était très anticipateur à l'époque, en 52, 51-52, a montré en fait que c'était des gens privés de tout ce qu'ils pouvaient faire, à la fois une histoire, des représentations d'existence, de liens familiaux, vous parliez d'utopie tout à l'heure, alors l'utopie, voilà, donc il montre ce lien très fort. C'est la première fois qu'on faisait un lien, si vous voulez, entre le destin social et de l'immigration avec les troubles dits des troubles psychiatriques. Donc ça a été... Donc c'est d'une très grande actualité aujourd'hui.
Et c'est avec ça qu'il est arrivé à Alger aussi. Du coup, Alice Cherki, est-ce qu'on peut qualifier votre expérience à Blida comme une sorte d'oasis, une expérience utopique ?
Non, c'était une rencontre, disons. C'est de l'ordre de la rencontre. De la rencontre avec ce que je présentais ou ce à quoi j'aspirais, si vous voulez, sur beaucoup de plans, d'ailleurs. Sur le plan... On n'était pas très cultivés, vous savez, nous, les étudiants algériens. Hein, on n'était pas... on aurait beau être intelligent, etc. Les jeunes gens, c'était plutôt... la mer, les rougets, les surprises parties, voilà, les études bien sûr, mais voilà. Déjà, moi, j'ai découvert ce à quoi j'aspirais, c'est-à-dire une culture universelle, beaucoup, plein de livres de psychiatrie, de psychanalyse, de philosophes, de sociologues, de littérature. J'ai découvert Charlie Parker, enfin des choses comme ça. Ça, c'est le plan culturel. J'ai découvert ma conception de la psychiatrie, du rapport à l'homme fou et pas fou, et du lien qu'il pouvait avoir entre la folie et le développement d'un petit garçon ou d'une petite fille. Coïncidence avec ce que je pensais politiquement devoir advenir. Donc, disons que ça a été une rencontre de ce monde-là. J'avais des liens très très forts, bon, d'une part avec Charles, Géronimi, puisqu'on s'est mariés, Et puis avec Sanchez, qui vient de mourir d'ailleurs, qui était d'origine d'émigrés espagnols, et Asla. Asla, qui était quelqu'un qui avait quitté, qui est parti, quand nous sommes un peu avant, parce qu'on savait que ça allait être dangereux, à l'hôpital psychiatrique, qu'on allait venir nous arrêter. Il était parti à Alger, un peu avant, mais il a été, je l'ai appris plus tard, il a été arrêté 3 mois plus tard, il faisait un remplacement de médecin, il a été arrêté, emmené par les paras, et on n'a plus jamais retrouvé quoi de ces traces, et on suppose qu'il a fait partie de ces corps qui ont été jetés dans la mer. La famille a fait après des recherches jusqu'à récemment encore, impossible d'avoir, mais c'est sûrement ce qui s'est passé. Voyez l'atmosphère quand même un petit peu. Mais on était jeunes, je ne sais pas comment vous dire. Si, je sais comment vous dire. Dire que les gens vous disent, mais pourquoi vous avez pris tous ces risques? C'était pas... Quand on va vers quelque chose qui apparaît avoir du sens, le risque, c'est pas... C'est pas une chose de conscient, peut-être inconscient, mais c'est pas conscient. Les risques sont pas conscients quand on est dans ce mouvement-là. On était triste hein, quand on a vu que qu'en 56, 57, les choses tournaient vers côté d'une guerre interminable. Je sais qu'à l'internat, on était triste. On était triste. On sentait que ça allait être encore long et abominable. Oui. Bon, c'est une tristesse légitime.
Merci. Merci, Alice Cherki.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre d'Ilana Navarro avec Alice Cherki. À voix nue, réalisation Rafik Zénine, prise de son Olivia Branger. Coordination Claire Poinsignon. À voix nue s'écoute en ligne et ce podcast sur franceculture.fr.